Bonjour à chacun, à chacune. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous l'avez chanté de tout votre cœur, car je veux t'obéir. Montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Je peux vous dire que c'est le genre de chant qui doit plaire au Seigneur. Le sujet que nous allons partager ce matin est un sujet qui me travaille depuis plusieurs semaines. J'hésitais à l'apporter pour la simple unique raison qu'il faut le simplifier, parce qu'il est un petit peu compliqué. Il concerne l'apostasie. Il y a des chrétiens, je suis sûr que dans notre pays, il y a des chrétiens qui sont incapables de vous dire ce qu'est l'apostasie. Et pourtant, c'est le signe le plus important avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul prévient les chrétiens de Thessalonique qui avaient été influencés par des faux pasteurs, des faux docteurs. Dans 2 Thessaloniciens, il y a donc un avertissement. Cette épître, elle a été écrite parce qu'il y avait des faux docteurs, comme il y en avait déjà, mais aujourd'hui c'est 100 fois pire, bien sûr. Il y avait des faux docteurs qui étaient passés à Thessalonique, qui enseignaient que l'avènement du Seigneur avait déjà eu lieu. Donc, si vous connaissez la Bible, ça veut dire que les chrétiens de Thessalonique allaient traverser la grande tribulation. C'est pour ça que Paul leur écrit, ce qui est faux, bien sûr. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Ma prédication sera peut-être un petit peu longue, mais je vous prie j'ai failli la couper en deux, puis je me suis dit non, on va en faire une seule fois, parce que beaucoup de frères et de sœurs écoutent l'enregistrement et ça leur permettra d'avoir une étude complète, enfin complète, une introduction complète sur ce qu'est vraiment l'apostasie. C'est très sérieux cette affaire, vous allez le comprendre, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'exhortation. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Retenez bien ce verset, d'ailleurs je le relis. Les séductions de l'iniquité pour tous ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Si vous lisez la Bible pour la première fois ce matin, vous pouvez vous poser des questions. Vous êtes en droit de vous poser des questions, et c'est très bien. Ce sujet est un sujet qui me préoccupe énormément, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Vous avez remarqué, si vous avez lu le Nouveau Testament, que très 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 souvent il est parlé de l'avènement du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Par exemple, il y a 9 textes qui parlent de la nouvelle naissance. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est important la nouvelle naissance? Ben oui, dans nos églises, même chez nous, il y a des gens qui sont chrétiens mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ce qui explique la confusion encore plus dans les églises. 20 fois, il est parlé du baptême, du vrai baptême, du baptême par immersion, que quelqu'un accepte de prendre lorsqu'il a accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. 9 fois de la nouvelle naissance, 20 fois du baptême, 70 fois de la repentance. Ça commence à faire. 70 fois, voyez la progression, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par la repentance et après par la conversion. Et plus de 300 fois de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'apostasie, ce mot qui revient dans cette lecture, est le signe principal qui annonce le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons nous y intéresser. C'est vrai que c'est un sujet pas évident. Si vous n'êtes pas converti, si vous venez pour la première fois, si vous n'êtes pas habitué à des sujets profonds, vous allez peut-être, excusez-moi l'expression, planer un petit peu. Mais il est nécessaire que nous abordions ce sujet. Premièrement, dans l'Apocalypse, si vous avez lu l'Apocalypse, vous voyez le Seigneur Jésus qui est glorifié au milieu des 7 chandeliers d'or. Il fallait que cette lumière soit continuellement allumée. Vous connaissez également l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait que dans le lieu saint, il y ait un chandelier à 7 branches avec de la lumière et de l'huile pure continuellement allumée. Ça représente que dans l'Église du Seigneur, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'huile doit toujours briller, le Saint-Esprit doit toujours nous éclairer. Les sacrificateurs étaient responsables d'entretenir les lampes. Parfois, du temps d'Élie, je crois, oui, elles ont été éteintes. Parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux, à quoi faire, les sacrifices, ça suffisait, la lumière dans le lieu saint, c'est pas grave, celle s'éteint. Le chandelier symbolise aussi le chrétien. Jésus a dit... Vous êtes la lumière du monde. Ce matin, un certain meneur de chant nous a parlé de petites loupiottes qui brillaient sur la surface de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le chrétien, il n'est pas pentecôtiste. Hier, avec le pasteur, un pasteur, on discutait, on parlait de la différence entre l'Église de Jésus-Christ et les dénominations. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une dénomination que de suite on est un bon chrétien. Ce qui est important, c'est d'être vraiment dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la dénomination. Mais nous sommes dans un monde de ténèbres, vous l'avez remarqué, je suppose, et un chrétien doit être la lumière du monde. Si vous ne l'êtes pas, faites-en une affaire sérieuse, tenez-vous devant Dieu, afin que là où vous êtes, vous puissiez briller. Ça ne veut pas dire que vous serez accepté, au contraire, vous pouvez vous attendre même de la persécution, mais une chose est sûre, lorsque l'on est chrétien, eh bien on doit briller. Dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers, si vous l'avez lu, ce sont les 7 églises. Si le Saint-Esprit est dans l'église, qu'est-ce qui peut se passer ? De grandes choses. S'il y a le Saint-Esprit dans l'Église, la lumière, la parole continue d'éclairer les hommes. Et c'est ce que nous avons absolument besoin. À quoi reconnaît-on une Église où le Saint-Esprit y est ? C'est que la parole de Dieu vraiment continue d'éclairer les hommes. La dernière Église mentionnée par Jésus dans l'Apocalypse, c'est celle de Laodicée. Vous savez, je l'ai dit maintes fois, qu'elle représente l'Église de la fin des temps. Et si vous avez lu les 7 églises, les 7 églises, vous avez vu le nombre de paroles que Jésus adresse à ces églises, le nombre d'avertissements que Jésus adresse à ces églises. Est-ce que vous aimez les avertissements ? Vous considérez les avertissements comme des jugements ou comme des bénédictions ? Il y a des gens, dès qu'on leur donne un avertissement, ils ne le supportent pas. Ils prennent ça comme de l'ingérence. Chaque avertissement est une bénédiction. Regardez dans l'Apocalypse au chapitre 2, il y a un premier avertissement à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est la première église à laquelle le Seigneur s'adresse, et déjà il y a un avertissement. Au verset 5, c'est important de réfléchir, parce que Dieu ne nous avertit pas pour nous ennuyer, Dieu nous avertit pour nous montrer le danger dans lequel nous pouvons être. À cette première église, déjà, le Seigneur donne un avertissement assez sévère, Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai » à toi, et qu'est-ce que Dieu dit ? Et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc voyez, la repentance revient très souvent dans la Bible, je vous l'ai dit. La repentance nous est proposée chaque fois qu'il y a eu un vrai problème, afin que l'on retrouve ce que l'on a perdu. Des gens parfois me disent, mais ce monsieur, il a regretté, il a demandé pardon. Alors, il y a une grande différence entre le regret et la repentance. Ce n'est pas parce qu'on regrette son péché que l'on se repent. Je me souviens de cette femme qui dit « Oui, mais mon mari, il me tape, mon mari, il boit, alors il me demande pardon, il dit que c'est fini, il recommence. » Et bien, je dis « Oui, parce qu'il ne s'est pas repenti, il ne fait que regretter. » Il faut faire. Le Seigneur, il ne dit pas « Regrette, sois triste ou net. » Non, le Seigneur, il dit « Repens-toi. » Quand on se repent, on prend la décision de changer de cœur. Donc, Dieu déjà donne un avertissement à cette église. « Repens-toi. » Sinon, j'enlèverai le chandelier. Donc, ça veut dire, j'enlèverai l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez le calculer comme vous voulez, mais j'enlèverai le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que dans bien des dénominations et dans bien des églises, alors ce matin, je ne vais pas trop vous embrouiller avec cela, je parlerai peut-être des églises locales, Mais je peux vous dire qu'il y a des dénominations qui ont pris la décision de chasser le Saint-Esprit de leur royaume, de leur église, parce qu'ils ont accepté des choses vraiment apostates. Si vous êtes intéressé, allez sur Internet, il n'y a rien de plus facile pour que vous sachiez quelles sont les dénominations qui ont accepté par exemple l'homosexualité de leurs pasteurs, de leurs prêtres, etc. Et je peux vous dire que dans ces dénominations, dans ces églises, il y a belle lurette que Dieu a enlevé son chandelier. Oui, le Seigneur doit être le chandelier. Le Seigneur, par son esprit, doit éclairer les églises. Ce matin, dans la voiture, je posais une question à ma femme. Je lui disais, tiens, si tu avais vécu à l'époque de l'apôtre Jean, si tu étais en Asie, quelle église t'aurais choisi? Parce qu'il faut, dans la vie, on fait des choix. Il faut faire des choix. Quelle est l'église sur les sept que tu aurais choisi? Parce qu'il y a sept églises. Si vous aviez fallu en choisir une, laquelle vous auriez choisi? Alors ma femme, elle connaît quand même. Elle me dit, j'aurais choisi l'église de Laodicée où le Seigneur ne fait aucun reproche. Et il dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Et c'est exactement, il faut faire des choix. Est-ce que je suis dans une église où on garde la parole? Vous allez voir que l'apostasie, c'est exactement l'inverse. C'est une église où on donne l'impression, vous allez voir, qu'on garde la parole, mais on ne veut pas de la parole de Dieu, on n'aime pas la vérité. Donc, si nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans l'Église, donc si nous voulons voir la conversion des gens, la conversion de nos enfants et de nos petits-enfants, pour cela il faut que le Saint-Esprit agisse, car il ne peut pas y avoir de conviction de péché s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit dans les Églises. Pourquoi les gens ne se repentent pas? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Donc ils ne peuvent pas être convaincus de péché. Ça fait que j'ai entendu un pasteur, écoutez bien, dire un pasteur qui a ouvert un site pour aider les gens du monde. Écoutez bien, mais c'est grave. Ce matin, je vais peut-être vous dire des choses, je vais essayer de limiter parce que je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes. Un pasteur qui a essayé d'aider les personnes qui sont tombées dans l'homosexualité. Et il s'est rendu compte que les gens qui ont pris contact avec lui, ce sont que des chrétiens. Vous entendez? Mais oui, c'est grave. Mais cela vous prouve que Dieu a retiré le chandelier de bien des églises, parce que moi je vous dis que lorsque le Saint-Esprit est dans une église, nous sommes convaincus de péché, lorsque ça doit l'être. Vous le croyez? À quoi on reconnaît une église où il y a le Saint-Esprit? Eh bien les gens sont convaincus de péché. Et si vous vivez dans le péché et que vous n'êtes pas convaincus de péché, moi je vous le dis, votre cœur s'est profondément endurci et vous devez en faire une affaire sérieuse et vous tenir à genoux et dire, Seigneur, mais montre-moi, éclaire-moi. Est-ce que Dieu peut exaucer ce genre de prière? Peut-être que vous allez dire, Seigneur, mais bénis-moi et fais ceci, fais que mon patron soit intelligent, qu'il m'augmente de 200 euros par mois. Je ne sais pas si cette prière Dieu va l'exaucer, mais si vous dites à Dieu, Seigneur, éclaire-moi où j'en suis, quand je vois la quantité de gens qui appellent le bien mal et le mal bien, laissez-moi vous dire qu'on a besoin que le chandelier soit dans l'église. Alors, c'est vrai que ça fait peur, ça fait réfléchir. Ce que j'ai à vous dire ce matin est délicat. Il y a des choses qui font quand même pitié en même temps. Moi, quand je vois certaines choses, je peux vous en donner davantage après en aparté par rapport aux besoins, parce que je ne peux pas vous dire tellement de choses, tellement parfois ça peut être grave. Donc, dans une église, il doit y avoir le chandelier, il doit y avoir l'action du Saint-Esprit. S'il n'y a plus l'action du Saint-Esprit, il faut remplacer l'action du Saint-Esprit par la religion, par les choses humaines, mondaines. À la place d'être fidèle à la parole, on devient fidèle à une organisation. À moi, je suis fidèle à ma dénomination. Je l'ai entendu dernièrement. Quelqu'un qui me disait, à moi, je ne veux pas abandonner ma dénomination. Bien. Mais est-ce que la dénomination dans laquelle tu te trouves, est-ce que l'église dans laquelle tu te trouves respecte la parole de Dieu? Déjà, ils sont incapables puisqu'ils ne la lisent pas. Alors, c'est sûr que ça va être difficile à ces gens-là de choisir s'ils ne savent même pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. À la place d'être fidèle à la parole, on est fidèle à une organisation, on est fidèle à une dénomination, à ses dirigeants. À moi, je suis fidèle à tel homme parce qu'il est gentil. Vous voyez, moi, j'ai entendu ça. Pourquoi vous allez dans telle église? Ah, moi, parce que le pasteur, il est gentil. Je dis, il ne faut pas qu'il soit gentil, il faut qu'il soit spirituel. Bon, tant mieux s'il est gentil, tant mieux. Si votre docteur, il est gentil, c'est bien. Mais il vaut mieux qu'il soit compétent dans la médecine que gentil. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a déjà, moi, il est gentil, il est gentil. Il nous fait la bise tous les dimanches matin, il nous prend dans les bras, il nous serre. Ah, moi, ça me fait vachement de bien. Écoutez-moi, je suis content que les pasteurs soient gentils, c'est bien. Mais est-ce que votre pasteur, il est spirituel? Vous savez, je vous dis ça parce que si nous ne disons pas ces choses, les gens seront incapables de choisir. Et je crois quand même, si on veut être prêt, quand Jésus va revenir, il faut savoir si l'église dans laquelle je suis prêche, oui ou non, la saine doctrine. Alors on est fidèle à des nouveaux principes, on est obligé de trouver des codes de déontologie. Il y a des églises, voilà, on fait signer aux gens des espèces de feuilles d'engagement. Tu veux être moniteur de l'école du dimanche, alors il te faut signer ci. Mais moi je peux vous dire que je vous déconseille de signer quoi que ce soit. De toute façon, si on ne respecte pas la parole de Dieu... Je ne vois pas pourquoi on respecterait un papier que l'on va signer sur un engagement de ceci ou un engagement de cela. On est fidèle à de nouvelles vérités. Ah, ça plaît aux gens, ça. De nouvelles vérités, de nouvelles interprétations de la parole de Dieu. Mais je vous assure, ce que je vous dis, je l'ai pesé. J'ai passé toute la semaine à préparer ma prédication. Je l'ai fait consciencieusement, je l'ai fait avec sérieux, avec joie. Mais je peux vous dire que tout ce que je dis, je l'ai pesé. Parce que laissez-moi vous dire qu'ils sont nombreux, les chrétiens, qui se font piéger, même ceux qui croient connaître la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, vous avez vu, les sept églises, elles existaient toutes en même temps. Ces sept églises existaient toutes en même temps. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a toutes sortes d'églises qui cohabitent, qui existent à peu près en même temps. Certaines sont plus fidèles que d'autres. Certains s'entendent dire que le chandelier a été ôté. Moi, je le dis, mais je le dis avec peine, mais je le dis avec vérité. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'églises où le chandelier a été enlevé. Mais ce n'est même pas Dieu qui l'a enlevé. C'est les gens qui, eux-mêmes, ont pris la décision de l'enlever parce qu'ils ne veulent pas de la lumière. Dieu n'a même pas eu à le faire. C'est les hommes qui ont dit au Seigneur, écoute, on n'a pas besoin de ça. Nous, on sait ce qu'on a à faire pour sauver les gens. On ne sauvera pas les gens en dehors de la prédication de la croix, de toute façon. Alors, bien sûr, l'église de Laodicée, c'est la dernière église, vous connaissez cette église. Pour ceux qui découvrent l'évangile, on va quand même lire une parole qui fait pitié. C'est pitoyable vraiment d'être obligé de lire ce que Jésus a dit dans l'église. Dans le contexte de l'enseignement sur l'apostasie, on comprend mieux ce que je vais vous dire. Apocalypse chapitre 3, c'est une église qui croit qu'elle est spirituelle, elle ne l'est pas, elle vit dans l'illusion, parce que Jésus dit « tu ne sais pas que ». Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit au verset 20? Mais c'est grave. Dans l'étude de ce matin, vous allez peut-être bien comprendre pour la première fois la signification de ce verset 20, chapitre 3, verset 20. Voici, c'est Jésus qui parle. C'est pas un pasteur, c'est pas une dénomination. C'est le Seigneur de l'univers, le Sauveur des hommes. Il parle à une église. Et qu'est-ce qu'il dit à cette église? Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je me tiens à la porte. Notre Seigneur, notre Sauveur, qui parle aux églises, ou à une église, à une dénomination, comme vous voudrez, et qui est obligé, mais encore il est patient de dire ça, de dire, je suis dehors. Vous m'avez mis dehors. Est-ce que vous vous rendez compte? Il ne faut pas s'étonner que le Saint-Esprit n'agisse plus dans les églises. Il ne faut pas s'étonner d'entendre ce que vous entendez aujourd'hui de toutes ces dénominations qui acceptent l'homosexualité de la part de leurs responsables, etc. Mais ce n'est pas compliqué. Il y a longtemps que le chandelier est dehors, il y a longtemps qu'on a mis Jésus à la porte et on est prêt à accepter tout vent de doctrine. Mais ça, c'est vraiment l'apostasie. C'est vraiment l'apostasie. Et l'église de Laodicée, quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, elle a préparé ce chemin. Elle a accepté des choses pour remplacer la parole. C'est pour ça que tu crois que tu es riche. C'est sûr qu'on peut faire tout un tas de choses qui laissent prouver au monde qu'on est riche. Il y a plein d'églises qui s'embarquent dans le travail social. Alors je ne suis pas contre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ils sont à fond dans le travail social et ils font ceci et ils font cela. Ils sont en brèche avec la mairie. Alors c'est sûr, vous vous rendez compte, on est amis avec la mairie. Oh, ben, je suis ami avec le maire, vous inquiétez pas. On s'entend, on se connaît. Mais ce que je veux dire, voilà, vous vous rendez compte. quand on fait ceci, on fait cela. Bon, on ne peut plus distribuer l'évangile parce qu'ils nous ont dit de ne plus distribuer l'évangile, mais ça ne fait rien. On distribue des repas. Alors, est-ce qu'on peut distribuer des repas aux pauvres? Oui, mais il ne faut pas que ça remplace l'évangile. Il ne faut pas que ça remplace la spiritualité. Le Seigneur Jésus a été chassé de l'Église. Dans la dernière Église citée dans la Bible, le Seigneur Jésus, il est dehors. Le Seigneur est à la porte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne vous fait pas de la peine? Est-ce que ça ne fait pas de la peine, sérieusement? Moi, toute la semaine, je me dis, réfléchis à cette prédication parce que je voudrais la mener pour comprendre l'apostasie. Mais mes frères et sœurs, ça fait quand même mal au cœur. Qu'à son Église, quand on voit tout ce que Jésus a fait pour nous, qu'il soit obligé d'être dehors en train de frapper. Il ne faut pas s'étonner que les gens ne se convertissent plus. Il ne faut pas s'étonner que les gens vivent dans le péché, que les chrétiens vivent dans l'homosexualité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'est plus dans sa maison. Alors comment le monde aujourd'hui regarde l'Église? Tiens, c'est une question ça. Parce que c'est une bonne question. Parce que vous pouvez dire, moi je regarde le monde, et le monde il est plein de ténèbres, le monde il est misérable, le monde est plein de méchanceté, d'accord. Est-ce qu'on regarde le monde un peu comme ça? Les politiciens sont corrompus, etc., etc. Mais comment, c'est bien de savoir, ça on est tous pas prêts pareil. Mais comment le monde regarde l'Église? L'Église en général, l'Église avec un grand E, l'Église universelle, allez. Comment le monde regarde l'Église? C'est une question. Qu'est-ce que les gens disent des églises? Vous savez, quand on a enterré notre sœur, vous m'avez dit, monsieur Gau, quand je serai décédé, je veux que vous fassiez mon enterrement, mais j'aimerais le faire à l'église de l'Union, parce que là, il y aura tous mes voisins qui viendront, etc., etc. Et puis sa fille m'appelle, elle me dit, monsieur Gau, le prêtre, il ne veut pas que vous fassiez la cérémonie de la sépulture à l'église, parce que vous êtes évangélique. Alors, je dis, donnez-moi son numéro. Alors, je l'appelle. Je dis, monsieur le curé, si voilà, je suis le pasteur Gau, je vous appelle, vous m'avez refusé de prêcher dans votre église. Et vous avez raison. Mais je vais vous dire, vous connaissez des évangéliques, ce que vous voyez à la télé. Des gens qui crient, qui sautent partout, etc., etc. Nous, on chante sur les ailes de la foi. Nous, on chante des cantiques, mon Dieu plus près de toi. On prêche la croix. Bon, c'est bon, monsieur Gau, je vous laisse l'église. Vous pouvez venir. Mais laissez-moi vous dire que le monde regarde l'Église, parce que nous on croit qu'on est spirituel en regardant le monde, mais ça vaudrait quand même la peine de se poser les questions, comment le monde regarde l'Église. Les médias, ils se font des gorges chaudes en nous montrant les églises complètement défoncées, complètement en vrac. Moi quand on me dit, mais vous avez regardé tel reportage sur l'Église, je ne le regarde pas tellement, ça m'énerve. Je ne peux même plus le regarder, je vous assure, je ne le regarde même pas. Mais vous n'avez pas regardé ça, je ne peux pas tellement, ça m'énerve. Ah mais je vous assure, tellement c'est grave. Alors, le monde regarde l'Église et le monde, il ne peut que rigoler. Oui ou non? Franchement, comment le monde regarde l'Église? Quels sont les effets de l'Église sur le monde? Est-ce qu'il y a un effet sur le monde? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Puisque l'Église, est-ce que c'est l'Église qui évangélise le monde ou est-ce que c'est le monde qui mondanise l'Église? Mais vous le savez, c'est le monde qui est en train de rentrer dans l'Église. Le monde regarde l'Église, et même c'est le monde qui excuse le péché de l'Église. Mais vous avez vu comme moi, le peu que vous voyez. Ah ben oui, vous comprenez, ils sont gentils maintenant, les chrétiens. Ils tolèrent ces choses, oui. Ils ont fait des progrès. Ah oui, c'est sûr. Ils ont fait des progrès, vous savez. Moi, j'ai entendu des rédacteurs en chef de librairies chrétiennes, d'organismes chrétiens, parler de la tolérance et que Dieu était un Dieu d'amour, etc., etc. Alors, les médias, là, ah, qu'est-ce qu'ils sont bien ces chrétiens? Ils sont comme nous. Ils font des progrès. Ils sont tolérants. Ça vous prouve qu'il n'y a plus aucun sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'y a plus aucun sel et l'Église ne peut plus convaincre les gens de pécher parce que le Saint-Esprit n'est plus au milieu d'elle. Le monde n'a aucune raison de se sentir jugé. Moi, je vous assure, des fois, ça m'arrive d'écouter France Info. Il y a des fois des rubriques, vous savez, sur le religieux. Mais ça fait mal au cœur, vraiment. Je me demande ce que les chrétiens pensent. Comment voulez-vous que le monde se sentent interpellés par l'Église, puisque l'Église est en train de penser exactement comme le monde. On en arrive presque au stade où c'est le monde qui excuserait l'Église, la pauvre, d'en être arrivé là. Vous ne pouvez pas vous imaginer à tout ce à quoi je pense en même temps, mais vous comprendriez mieux mes paroles si je vous disais tout ce à quoi je pense. Donc, le monde n'a aucune raison de se sentir jugé dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'Église et le monde. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas quand même oublier que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. L'Église a recours aux choses du monde, on le voit. Moi, je peux vous dire que ce matin, il y a des églises en France où il n'y a pas la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour plaire aux jeunes, on fait des concerts. Il y a des concerts. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Il y a des églises aujourd'hui en France où il n'y a pas la prédication de la parole de Dieu. Il y a des concerts parce que les concerts, ça plaît. Voilà, bien sûr, ça plaît, ça. Les gens chantent, les gens bougent, les gens sautent, les gens, etc. Et je vous assure, ça mène pas les gens à la repentance, croyez-moi. Alors, Jésus, il reprend les églises. Quand vous lisez les sept églises, à part l'église de la Odyssée, parce qu'elle a gardé la parole. Elle n'était pas très puissante, puisque Jésus dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alors, écoutez, que Dieu fasse que nous ayons de plus en plus de puissance, moi, je suis pas contre, mais gardons la parole. C'est là la question qu'il faut que nous nous posions. Est-ce que je garde la parole de Dieu ? Alors l'Église a de plus en plus aux méthodes du monde, a de plus en plus recours aux méthodes du monde. Bon, mais c'est normal, il n'y a plus la vie de l'Esprit, il n'y a plus le chandelier, le Seigneur est à la porte. Alors bien, il faut remplacer la présence de Dieu, il faut bien la remplacer par des choses mondaines, par des choses humaines. C'est grave, j'ai des petits temps d'arrêt, parce que je pense à des témoignages, je me dis, tu les donnes, tu les donnes pas. Je pense que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, Dieu enseigne certaines choses pour nous aider à nous positionner. C'est pour ça que ce matin, dans la voiture, nous parlions, mais quelle église tu choisirais si tu habitais en Asie mineure aujourd'hui, dans le giron d'Éphèse. Et c'est vrai que, mes frères et sœurs, moi je vous le dis, nous devons, mais vous devez, moi je ne dis pas ça pour que vous veniez ici, ça serait grave si j'orientais une prédication pour ça. Mais vous devez savoir, vous devez choisir. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont choisi par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à la proximité, par rapport à la géographie, etc. Mais ils se sont fait avoir. Je peux vous le dire. Parce que petit à petit, ils ont accepté des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et dans cette église de la Odyssée, Dieu bien sûr veut les aider. Dieu veut nous aider. Si ça ne va pas ce matin, Dieu veut vous aider, croyez-le. Qu'est-ce que Dieu dit ? Je te conseille d'acheter un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois s'il y a bien une chose que l'on peut faire. Alors comment acheter ce collyre ? Où c'est qu'il faut aller ? Dans quel magasin il faut aller pour acheter un fameux collyre ? Est-ce que vous connaissez le magasin où on peut acheter un collyre pour oindre les yeux ? C'est dans la parole de Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu que vous serez capable de voir si quelque chose est biblique ou n'est pas biblique. Les gens de l'Odyssée, ils ne connaissaient pas leurs conditions spirituelles. Ils étaient dans une église, le Seigneur est obligé de leur dire des choses d'une sévérité pas possible. Ils ne connaissaient pas leurs conditions spirituelles. Mais je nous pose la question, est-ce que nous connaissons notre condition spirituelle ? Parce que bon, c'est facile de dire les chrétiens de l'Odyssée ne connaissaient pas leurs conditions spirituelles, ils étaient aveugles, misérables, pauvres et nus, ouais, c'est pas bien. Jésus était dehors, c'est grave. Mais nous, ce matin, vous les jeunes qui êtes là, même si vous n'êtes pas encore convertis, mais est-ce que vous connaissez votre condition spirituelle ? On n'est pas là pour faire une étude biblique l'apostasie, ça je peux la faire, et justement, je ne veux pas que ça bascule en étude biblique, je veux que ça soit vraiment pratique. Est-ce que vous et moi, nous connaissons notre condition spirituelle ? L'église de l'Odyssée était vraiment l'église du Seigneur et elle avait réussi à mettre Jésus dehors. Mais on a l'impression que ce n'est pas possible. Pourtant, l'Odyssée, c'est une église qui remonte à la fin du 1er siècle. Monsieur Olé me reprendra, ça doit être à peu près à la fin du 1er siècle. Vous vous rendez compte, entre la venue de Jésus et le fait que l'église soit dehors, il ne s'était même pas passé un siècle. Vous vous rendez compte, même pas passé un siècle. Mais en fait, cette église, elle a mis le Seigneur dehors. Elle a mis le Seigneur dehors. Elle représente, écoutez bien, parce que c'est là maintenant qu'on va attaquer vraiment le sujet, elle représente l'Église qui s'est détournée de la vérité. Je ne dis pas des œuvres. Vous avez vu à chaque Église, je connais tes œuvres. Les œuvres, on en fait. Est-ce que le monde fait des œuvres ? Ben ouais, les œuvres, ce n'est pas les œuvres qui vont nous sauver. Par contre, il faut que les œuvres nous suivent. Le jour de l'Assemblée Générale, j'aimerais vous faire une exhortation sur la rétribution. On n'en parle jamais, comme je vous l'ai dit dimanche dernier. Pourquoi ? Parce que dans nos mouvements pentecôtistes, on a tellement voulu ne pas parler du salut par les œuvres qu'on ne parle pas des œuvres. Mais il faut quand même parler des récompenses et des rétributions. Le Seigneur en parle, je crois, 7 fois dans le Nouveau Testament. Ça vaut la peine d'en parler. Mais une église où on a réussi à mettre Jésus dehors, c'est une église où on ne respecte plus la vérité, ou une partie de la vérité. Jésus parle aux églises, ce matin il parle à l'assemblée, mais Jésus parle aux individus. Vous êtes d'accord? Le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Alors l'apostasie, moi j'ai entendu, parce que j'entends tout. Enfin, j'ai tout entendu. Il y a des gens qui s'imaginent que les apostats, ce sont les rétrogrades. Que les gens qui sont fidèles dans une église, ils ne sont pas apostats. Alors c'est sûr que les gens qui ont rétrogradé, ils sont apostats, dans le sens où ils ont abandonné la vérité. Il y a des gens qui ont quitté l'église, mais ils n'ont pas forcément quitté le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui a longtemps qui sont loin du Seigneur. Le fils prodigue, est-ce qu'il y avait lui? Est-ce que son frère n'était pas un peu prodigue aussi? Le fils prodigue, il n'était pas loin du papa, mais il était loin de Dieu quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les rétrogrades, bon, c'est sûr, j'aime pas trop ce mot, mais les fils prodigues ont bien sûr abandonné la vérité. Mais l'apostasie, ce n'est pas pour les apostats, c'est pas pour les fils prodigues. L'apostasie, elle commence petit à petit, quand on accepte tout un tas de choses qui ne sont pas bibliques. La semaine dernière, il y a une dame qui s'est convertie ici, qui est aujourd'hui dans une église, elle a trouvé du travail, elle est professeure dans une église dans le centre de la France. Elle me dit, Monsieur Gou, je vous appelle parce que j'ai une question à vous poser. On a eu 2 baptêmes il y a quelques jours. Ces deux femmes qui sont faites baptiser, elles ne sont pas mariées, elles vivent en concubinage et on les a quand même baptisées. Voilà. Est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un qui vit dans le concubinage? Voilà. Et bien sûr que non. Mais mes frères et sœurs, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je vous dis ça, vous voyez, on accepte petit à petit des idées qui sont libérales, qui sont de plus en plus acceptées, parce que le monde est bien sûr favorable. Mais quand vous regardez, alors il faudrait que vous preniez le temps. D'ailleurs, je vous recommande un livre qui s'appelle « Ce que dit le Christ ». Je vous ai souvent conseillé ce livre, « Ce que dit le Christ ». Ça explique comment petit à petit, on a changé la parole de Dieu avec des idées libérales ou des idées nouvelles ou des fausses doctrines. Par exemple, la première division, je ne sais pas si vous savez laquelle c'est, elle est au 3e siècle, si je me trompe. Au 3e siècle, c'est sur la Trinité. Voilà, sur la Trinité, il y a la moitié des évêques qui ont dit « non, il n'y a qu'un Dieu ». C'est pas possible. Et il y en a la moitié qui ont dit « non, il y a 3 dieux ». Il y a 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, en fait, combien il y en a? Alors, on n'a pas fini le culte. Alors, il y en a combien de dieux? Il y en a un? Vous voyez? Ben, ça a pris des... Nous, on... Mais le problème, c'est pour beaucoup de gens, ça, ils n'arrivent... Parce que ce n'est pas mathématique. Il y a un Dieu qui se manifeste sous 3 personnalités différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un Dieu. Mais est-ce que Dieu est assez grand pour se manifester de 3 façons différentes? Mais quand même, bon. Mais en fait, ça a été la première division dans l'Église primitive. On l'appelle l'Église catholique, mais catholique, ça veut dire universel. Mais en fait, ça a commencé comme ça. Le purgatoire. Vous savez combien de siècles on a mis pour arriver à instaurer le purgatoire dans l'Église? Le diable, il est patient. 6 siècles. 6 siècles, c'est bien, Madame Blanc. 6 siècles. Est-ce que vous vous rendez compte la patience du diable pour infiltrer des idées mauvaises dans l'œuvre de Dieu et le mal que ça a fait dans l'œuvre de Dieu, la notion du purgatoire? Alors on pourrait parler. Aujourd'hui, on remet en question la naissance miraculeuse de Jésus. Beaucoup, beaucoup de gens, d'évêques, de prêtres, même de pasteurs, disent que ce n'est pas possible. Si Jésus est né, c'est le fils de Joseph. Joseph était un jeune homme, et vous comprenez bien qu'il devait aimer Marie, et que c'est le fils de Marie. Moi, j'ai entendu tout un tas de trucs. Écoutez, le Seigneur Jésus, il est né par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein de Marie. Alléluia. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu dépouillé de sa gloire. Et aujourd'hui, il y a même une de nos assemblées qui enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Je vous le dis, parce qu'il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas du mépris, ne commencez pas à dire, Monsieur Gou, il critique les assemblées. Je ne défends pas une dénomination, je défends l'œuvre de Jésus-Christ. J'espère que quand même il y a assez de bon sens pour que vous compreniez ces choses-là. La doctrine de l'enfer, 60% des pasteurs aux États-Unis ne croient plus à l'enfer. Je me demande comment ils prêchent l'Évangile. Mais moi, je vous dis que Dieu a créé les cieux et Dieu a créé l'enfer. Et que si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Vous allez me dire, mais vous le dites d'une manière tellement abrupte. Ben oui, j'ai pas le temps. Mais mes frères et sœurs, si vous... Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est... Les jeunes, ne riez pas. Et vous, si vous n'êtes pas sauvés, ne riez pas. Parce que vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu. Si vous ne vous repentez pas, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit si vous prenez le baptême. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je prends le baptême, je veux aller au ciel. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la repentance qui sauve. Vous voyez, alors je vous donne quelques éléments, mais je vous parle, voyez, du purgatoire, je vous parle de la virginité de Marie, je vous parle de la naissance miraculeuse du Seigneur, je vous parle de la théologie du royaume maintenant. Est-ce que vous connaissez la théologie du royaume maintenant? Je vous dis la définition. Cette théologie enseigne que l'Église doit conquérir le monde dans tous les domaines pour le soumettre à l'autorité de Christ avant que celui-ci ne revienne pour régner. Je le relis. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Le royaume maintenant, alors c'est bien le royaume maintenant, vous rendez compte, cette théologie enseigne que l'Église doit conquérir le monde dans tous les domaines pour le soumettre à l'autorité de Christ avant que celui-ci ne revienne pour régner. Vous comprenez bien que ça plaît. Ça plaît un peu plus que de dire, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Vous vous rendez compte, j'étais dans une église, on m'a enseigné que tout le monde allait se convertir, Jésus ne reviendra pas avant que le monde se convertisse. Moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Mais c'est enseigné, et il y a des chrétiens de chez nous qui acceptent la théologie du royaume maintenant. Ah, mais c'est sûr que c'est plus positif, parce qu'aujourd'hui, il faut positiver. Il n'y a pas qu'à Carrefour, il y a dans les églises qu'il faut positiver. Et mes frères et sœurs, mais c'est ça, il faut plaire aux gens, vous vous rendez compte, oh, j'ai été dans une église, il y a une prophétesse qui prêche et qui enseigne que le monde entier va se convertir avant l'avènement de Jésus-Christ. Écoutez, je pense que ce que dit la prophétesse, ce n'est pas la vérité. Quand Jésus va revenir, beaucoup de gens ne seront pas prêts. Et le troupeau, il sera petit, moi je vous le dis. Croyez-moi, parce que les gens ne supporteront pas la vérité. Le mouvement homosexuel, il ne faut presque plus en parler. Je peux me retrouver en prison à cause de ça. Est-ce que vous le savez? Bon, mais quand même, il faut honorer la parole de Dieu. C'est entré dans plein de dénominations. Je n'ose même pas vous dire dans quel mouvement il est entré, parce que je veux blesser personne. Le mouvement féministe. Vous savez, il y a un mouvement féministe dans le monde, mais il y a un mouvement féministe chrétien qui rejette Dieu comme père. Si vous avez des doutes avec ce que je vous dis, vérifiez-le, vous pouvez le faire. Les chrétiennes de Berry le faisaient. Vous pouvez vérifier avec Internet. Il n'y a rien de plus facile. Plutôt que de regarder des bêtises, eh bien vous tapez le mouvement féministe chrétien. Et vous verrez ce que la doctrine et la confession de foi des églises féministes. La théologie, le mouvement de la prospérité, là aussi. Oh, vous ne savez pas ce qu'on m'a dit, Monsieur Gault. Plus je gagne. Non, plus je donne... Plus je gagne, et plus je gagne, plus je me rapproche du Seigneur. Vous voyez, c'est bien dit quand même. Voilà. Mais c'est ce qu'on enseigne. Je vous en ai parlé dernièrement. Ces gens dans les églises. Alors, combien vous avez donné, Timothée? Combien vous avez donné ce matin, Timothée? Allez, vous avez donné combien? 20 euros? 50 euros? Allez, montrez-la. Non, mais vous riez parce que je vous fais rire. Mais c'est ce qui se passe. Il y a des églises, on pousse les gens à montrer. Combien vous avez donné? Ah, mais moi, j'ai donné un chèque. Alors, un chèque. Voilà, de 200 euros. Ah, moi 300. Oh, et tout le monde applaudit. Vous riez parce que ça vous fait rire, mais vous comprenez bien que le Saint-Esprit n'est plus dans ces églises. Vous le comprenez bien. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Non, mais vous voyez, et c'est ça, et ça plaît. Ah, mais c'est bien. De toute façon, dans les églises, il faut rigoler un peu toute la semaine. C'est dur au travail. Alors, au moins qu'on se détende dans l'église. On ne se détend pas quand on cautionne le péché. On se détend quand le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Ça, c'est sûr. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qu'il faut dire. Ce faux enseignement est en train de se répandre. Il s'est répandu dans les églises. Il s'est répandu dans nos assemblées de Dieu. Vous entendez ? Dans nos assemblées de Dieu, je risque de payer cher ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Au départ de l'apôtre Paul, quand Paul est parti de Thessalonique, de suite, il s'est infiltré des faux docteurs et qui ont dit que la tribulation était déjà là. Vous l'avez lu avec moi. Donc, ça voulait dire que les chrétiens allaient traverser la grande tribulation. Non, les chrétiens ne traverseront pas la grande tribulation, même si c'est vrai que dans certains endroits, les chrétiens, ils y sont déjà dans la grande tribulation avec ceux qu'ils vivent. Mais la grande tribulation ne se produira qu'après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il doit y avoir le plus gros des signes, c'est l'apostasie. Avant l'enlèvement de l'Église, avant le retour de Jésus-Christ, il doit y avoir l'abandon de la foi. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en train d'abandonner la foi ? Il y a des chrétiens qui abandonnent la foi. Ça nous fait mal au cœur. Ça nous brise le cœur. Combien de chrétiens abandonnent la foi ? Mais je sais, moi, il y a des gens qui arrivent, qui des fois, ils viennent une fois, deux fois, trois fois, ils me disent, Monsieur Gault, il ne vous faudrait pas prêcher comme ça. Vous allez perdre du monde. Il ne faut pas prêcher sur ce sujet. Mais on n'est pas là pour gagner du monde, On est là pour honorer la parole de Dieu. Les gens, ils viennent, c'est bien. Les gens, ils s'en vont, mais tant pis. Mais je veux dire, on ne fait pas de la politique et de la démagogie. On n'est pas là pour dire, voilà, cette année, on a eu tant d'offrandes. La prochaine, il faut 10 000 euros de plus. Non, on est là pour honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous à nous adapter à la mentalité morale des gens. C'est aux gens à s'adapter à la mentalité biblique. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ce triomphalisme terrestre, voyez, qui laisse croire aujourd'hui que le monde entier va se convertir. Cherchez-moi le texte dans la Bible et je vous assure, je vais prêcher dessus. Mais ces gens-là qui croient de ça, que tout le monde va se convertir, qu'est-ce que vous voulez qu'ils veillent ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils prient ? Tout va bien. Moi, j'ai discuté avec un jeune homme il y a quelques années. Il était venu me voir. Il me dit, voilà, Monsieur Gault, j'ai compris, parce que la prédication poussait à ça. Il faut que je fasse du sport à haut niveau, que je devienne un athlète à haut niveau. Ah, j'ai dit, ben, c'est bien, fais-tu du sport. J'ai dit, mais est-ce que vous le faites par conviction ? Parce que le pasteur venait de prêcher qu'il fallait qu'il y ait des hommes, des chrétiens partout, dans les arts, dans le cinéma, dans la politique, partout. Que les chrétiens devaient être partout. Je crois qu'il faut que des chrétiens soient partout. Alors je dis à ce jeune homme, bon, mais écoutez, est-ce que vous avez la conviction que vous devez faire du sport au niveau ? Parce que ça va vous demander beaucoup. Est-ce que vous lisez votre Bible ? Ah non, moi je ne lis pas, je n'aime pas lire. Vous avez pris le baptême ? Ah oui, j'ai pris le baptême. Mais est-ce que vous priez ? Ah non, moi je ne prie pas. Ah, j'aime pas prier. J'ai écouté, repentez-vous. Convertissez-vous. Faites un peu de sport, ça vous fera du bien. Mais j'ai dit, c'est pas en faisant du... Vous voyez, on est là dans cette espèce... Mais c'est grave ce qui se passe. Parce que c'est ce qui est enseigné aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez entendre des prédications sur Internet. Il faut rêver. Fais des rêves. Comme Joseph. Joseph, il n'a pas fait des rêves. C'est Dieu qui lui a donné une vision. Il te faut rêver. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou rêver. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Et on est là, et ça plaît aux gens. C'est sûr que c'est plus positif que la prédication que vous êtes en train d'entendre en ce moment. Mais cette prédication, elle peut vous sauver. Elle peut sauver votre âme. Donc, Paul parle de tous ces chrétiens qui abandonneront la foi, qui tomberont dans les fausses doctrines, qui s'attacheront à des esprits séducteurs. Vous avez entendu ? Vous l'avez lu avec moi ? Ils seront séduits par des enseignements contraires à la parole de Dieu. Alors écoutez-moi bien, moi bien. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Les gens se font piéger parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et quand un pasteur va prendre un verset de la Bible et amener toute sa fausse doctrine au travers de ce verset biblique, si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne savez pas si c'est une fausse doctrine. Les gens qui gardent la parole, qui lisent la parole, ils ne se feront pas piéger. D'ailleurs, Jésus l'a dit, si tu gardes ma parole, je te garderai. Pourquoi des chrétiens seraient-ils gardés ? Pourquoi des chrétiens seraient-ils tombés dans la séduction ? Eh bien, pour la simple et unique raison que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Oh, c'est trop difficile, diront-ils. Il est clair que quand le chandelier est ôté, quand le Seigneur est à la porte, il n'y a pas de mal à faire rentrer n'importe quoi de mondain ou même de diabolique dans l'Église. Parce que vous l'avez lu avec moi, si vous n'êtes pas familiarisé avec le texte, vous vous rappelez dans Ézéchiel, pourquoi le diable a chuté ? Je monterai. Je m'assirai sur le trône de Dieu. Les milliers d'années ont passé. Et vous l'avez lu avec moi tout à l'heure. L'adversaire, vous avez vu au chapitre, au verset 4 ? Je ne sais pas si vous lisez les prophéties, les épîtres pastorales, tout ça. Mais quand même, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Tiens donc, se proclamant, vous avez vu qu'il y arrive ? Vous avez vu ? Et il y a des églises, il y est arrivé, ne vous leurrez pas. Et dans les églises où on ne respectera pas la doctrine, il n'y aura pas de difficulté à ce que les choses du diable s'installent dans le royaume de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que j'ai reçu hier, je pense, en préparant ma prédication. Même la marque de la bête, qui viendra après l'enlèvement de l'église, ça ne m'étonnerait pas, alors écoutez, c'est une parenthèse, c'est une conviction personnelle, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'Église qui favorise l'introduction de la marque de la bête. Je referme la parenthèse. Mais vous savez, quand on voit que le diable, il a pendant des siècles, il travaille à une chose, à essayer de s'asseoir dans le temple de Dieu et dans les églises où on ne respectera pas la doctrine, c'est ce qui va arriver. Laissez-moi vous le dire, et ici pareil, si on ne respecte pas la saine doctrine, le diable s'installera de plus en plus. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dans l'Église ? Que Jésus soit au milieu de nous, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, que le chandelier brille au milieu de nous. Oui, c'est ce que nous voulons, c'est certainement la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Mais quand le chandelier est ôté et quand le Seigneur est à la porte, vous comprenez bien que les hommes n'ont pas de mal à instaurer ce qu'ils veulent dans l'Église. Il faut moderniser. Moi, on me l'a souvent dit, Monsieur Gault, vous devriez moderniser l'Église. Vous devriez améliorer ceci. Je me rappelle de cette jeune fille, elle est peut-être là ce matin, elle est venue me voir, elle avait 2 mois qu'elle était à Sainte-Agne. Elle me dit, Monsieur Gault, la louange, c'est un petit peu, alors elle ne sait pas trouver le mot, elle me dit, il faudrait que ça soit un petit peu plus vivant. J'ai dit oui, je suis sûr qu'on peut améliorer. Est-ce qu'on peut améliorer la louange? Oui, comme ce matin, sans problème. On peut améliorer la louange. Mes frères et sœurs, et j'ai dit à cette jeune fille, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta maison que tu aimes beaucoup et qui est perdu? Ah, elle me dit oui, mon grand-père, il est perdu. J'aimerais qu'il soit au Seigneur. Tiens, je dis, imagine-toi qu'il vienne dimanche. Il vient dimanche au culte. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on saute, qu'on tape des mains, qu'on bouge, qu'on danse, etc. Ou qu'on chante avec solennité « De la croix, la grâce coule ». Monsieur Gault, elle me dit, mais si mon grand-père il vient, chanter de la croix, la grâce coule. Et son grand-père est venu le dimanche. Et son grand-père, il s'est converti. Il a pris le baptême il y a quelques mois. La jeune fille, si elle est là, elle le sait. Mes frères et sœurs, la musique, c'est pas pour le corps. Dans l'église, la musique, c'est pour élever l'âme vers Dieu. Vous le croyez? Alors c'est vrai qu'il y a des chants joyeux, et je pense qu'on peut se lever, c'est pas interdit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. On peut se lever, lever les bras, c'est biblique. Mais je pense que ce qui devrait préoccuper chaque chrétien, ce sont les perdus qui sont au milieu de nous à chaque réunion. Oui ou non? C'est sûr qu'une prédication comme ça, si vous n'êtes pas converti, ça fait un peu, c'est peut-être un peu épais le steak, mais quand même de temps en temps, il faut dire certaines choses, elles sont essentielles. Et je crois que si c'est conduit par Dieu, même un inconverti peut se convertir en écoutant cette prédication. Oui, l'apostasie doit arriver. La théologie du royaume maintenant, c'est une blague de l'ennemi. Quand Jésus reviendra, ce sera comme du temps de Noé. C'est écrit, ce qui arriva, arrivera. Il nous a rappelé, M. Dubois, ce matin, combien ils étaient dans l'arche lorsque Jésus a pris l'église. 8. Et quand vous lisez la Genèse, il est dit que les gens priaient. Est-ce que c'est écrit que les gens invoquaient l'Éternel? Oui, c'est écrit. À quoi ça leur a servi? À rien, parce qu'ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Les gens, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent, ils invoquent Dieu, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, cet abandon de la foi a commencé il y a longtemps, puisque dès le départ de Paul, il s'introduisait déjà des faux docteurs qui enseignaient des choses mauvaises, que l'Église à l'Apocalypse, qui n'a qu'un siècle après la venue de Jésus-Christ, l'a déjà mis dehors. Alors mes frères et sœurs, il faut que nous soyons sérieux. On n'est pas là pour moderniser l'Église et pour plaire aux gens avec du high-tech dans l'Assemblée. Tant mieux s'il y en a, je veux dire, c'est bien les rétroprojecteurs, tout ça. Que ça soit notre service, c'est bien. Mais on est là pour prêcher la croix et Jésus-Christ crucifié. Cet abandon de la foi a commencé, il se développe de plus en plus, il entre de plus en plus dans les églises. Et les frères là qui voulaient être anciens, veillez sur la parole de Dieu. Moi je me réjouis de voir que dans l'Assemblée, il y a des frères qui veulent trouver leur place d'ancien. Je me réjouis, mais vraiment je me réjouis. Eh bien, si vous voulez être des bons anciens, c'est pas grave le titre. Ce qui est important, c'est que vous connaissiez la parole de Dieu. Parce que dans les églises, s'il n'y a pas des anciens qui veillent sur la parole de Dieu, eh bien, l'ennemi rentrera dans les églises. Il faut veiller. Si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, il faut me reprendre. Est-ce que vous auriez assez d'amour pour moi pour le faire? Non, reprendre le pasteur, non, tu vas pas. Eh bien, c'est parce que vous m'aimez pas. Moi, je peux vous dire que ma femme, elle doit vraiment m'aimer. Je peux vous le dire. Mais si vous m'aimez, vous devez me reprendre. Un jour, monsieur de Dieu, il est là. Il y avait monsieur Christian. Ils m'ont repris. Mais qu'est-ce que je leur en suis reconnaissant. Mais un jour, monsieur de Dieu, il ne sera plus là. Vous êtes d'accord? Non? Ça peut arriver, monsieur de Dieu. Bon, on peut partir avant vous. Mais bien sûr, mais est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr. Mais mes frères, ça, c'est pas grave. Mais mes frères, mes sœurs, est-ce que nous allons honorer la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes capables? Oui, est-ce que vous êtes capable de venir me trouver, de me dire, monsieur Segou, vous avez dit ça? Est-ce que c'est vraiment biblique? Et puis c'est ça, c'est comme ça qu'on veille les uns sur les autres, qu'on veille sur les églises, qu'on veille sur les assemblées. L'apostasie n'a pas commencé avec l'homosexualité dans les églises. Vous avez vu, ça a commencé avec la Trinité, ça a commencé avec l'indifférence. L'indifférence, bon, c'est pas grave, il y a des choses plus graves. Le manque de conviction, le manque de hardiesse pour défendre la vérité. C'est pas toujours facile Moi, j'en sais quelque chose, je vous le dis franchement. J'en ai pleuré, je peux vous le dire plusieurs fois, de devoir dans des pastorales dire non, c'est pas biblique. Oh, mais tu comprends. Moi, franchement, j'en ai été malheureux. Bon, je le vis de mieux en mieux, mais franchement, ça fait rien. Qu'est-ce que nous préférons? Est-ce que nous aimons les gens? Est-ce que nous aimons les gens qui sont perdus? Est-ce que nous aimons nos enfants, nos adolescents? Est-ce que nous voulons que nos enfants soient sauvés? Eh bien, nous devons leur dire la vérité à nos enfants. Nous ne devons pas essayer de les attirer avec de la poudre aux yeux. Non, vous devez entendre tous que vous devez vous repentir et vous convertir. Parce qu'on n'aime pas ces gens. Quand on aime les gens, on leur dit la vérité. On le fait avec amour, on le fait avec larmes s'il faut, ou avec sévérité, mais qu'importe. Mais on le fait. La doctrine, il faut la respecter. Aujourd'hui, on veut être large d'esprit, tolérant, ouvert. Alors ces mots, on les entend de plus en plus. C'est comme ça qu'on va gagner les gens. On ne va pas gagner les gens, on va perdre tout le monde en faisant comme ça. Et ça n'a rien à voir avec l'ignorance, mes frères et sœurs. L'ignorance, c'est une chose. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Bien sûr que si vous lisez la Bible, vous ne serez pas ignorant. Il y a des gens, ils ont 20 ans de conversion, ils n'ont rien compris à l'apostasie. Franchement, s'ils avaient lu le Nouveau Testament quelquefois, ils comprendraient quand même ces choses. Et je voudrais conclure. Même si je suis un petit peu plus long, ne vous y méprenez pas. C'est important. Peut-être pas tellement pour vous qui connaissez la doctrine parce que vous êtes ici, mais il y a plein de gens qui écoutent sur Internet. Et laissez-moi vous dire que certains, ils ont besoin d'entendre ce que je suis en train de prêcher. Alors, comment c'est possible qu'un chrétien qui a la foi finisse par la perdre? Parce que c'est la question qu'on peut quand même se poser. Comment c'est possible? Eh bien, parce qu'on a refusé d'accepter toute la vérité. On mélange la vérité avec plein d'erreurs, et voilà. On met la Bible de côté, on s'intéresse aux activités, etc., etc. Et cet abandon de la foi, la recherche de nouveautés, favorise cela. Alors, on remplace la vérité par un mensonge. Alors, j'aimerais lire, vous avez lu avec moi, alors on va lire un texte. Dans 2 Jean, au chapitre 7. J'aimerais conclure, ne regardez pas votre montre, même si je prends 5 minutes de trop. S'il vous plaît, ce sont des choses trop sérieuses, trop importantes. Regardez dans 2 Jean, au chapitre 7. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 7? Mais si, moi j'en ai rajouté des chapitres. Non? Deuxième épître de Jean, verset 7. C'est bien. Regardez bien ce qui est écrit, regardez bien. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc voyez, dans nos églises évangéliques où on dit que Jésus n'est pas le Christ, vous avez déjà vu où on en est. Vous avez compris comme moi? Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Regardez le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Vous entendez? Je fais une allusion, tant pis, je la fais, au témoin de Jéhovah. Vous voyez, bon, je ne vais pas épiloguer parce que je n'ai pas prêché jusqu'à 3 heures. Mais mes frères et sœurs, quand on va plus loin dans la doctrine, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec nous. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il ne faut pas aller plus loin dans la doctrine. Vous savez, il y a des gens qui me disent, mais monsieur Gros, pourquoi vous êtes contre tous ces livres qui ont été écrits, de gens qui ont été ravis dans le paradis, qui ont raconté des choses merveilleuses? Mais monsieur Gros, vous devriez distribuer ces bouquins, ça va amener les gens à Jésus. Jésus a dit qu'il ne faut rien rajouter et rien retrancher à la parole de Dieu. L'apôtre Paul, qui a été ravi au troisième ciel, en parle 14 ans après et dit qu'il a été ravi au troisième ciel et que ce qu'il a vu, Dieu lui demande de ne pas le dire. Oui ou non? C'est inexplicable. Des paroles inexprimables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a changé d'avis? Mais voyez, c'est comme ça que Dieu reconnaît les gens qui aiment la vérité. Moi, si vous saviez le nombre de bouquins qu'on m'a passé, monsieur Gomet, regardez, il y a un pasteur qui a fait une enquête par rapport à ces gens qui ont eu ces révélations. Toutes ces personnes sont rétrogrades. Vous avez vu? Mais pourquoi aller plus loin? Alors, il y a des gens, ils sont friands de ça. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. Ils veulent des fables. Ils veulent des trucs qui les intéressent. La repentance, la sanctification, la consécration, c'est pas trop leur truc. Eux, ils veulent des trucs bien. Mes frères et sœurs, soyez sérieux avec la parole de Dieu. Il y en a des textes, je ne prends pas le temps de vous les lire. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Vous le croyez ? On y est, ne dites pas, on va aller dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. L'apostasie s'est installée dans l'Église universelle, dans toutes les églises. Et si nous ne voyons pas que nous sommes dans les derniers jours, c'est que vraiment nous sommes aveugles, croyez-moi. Quand Paul dit « le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu ». Donc, l'iniquité s'installera d'une manière totale et définitive lorsque l'Église sera enlevée. Quand l'Antéchrist paraîtra, après l'enlèvement de l'Église, il inondera le monde avec ses miracles, ses signes mensongers, etc. etc. On n'a pas le temps de tout lire. Mais si les chrétiens remplacent la parole de Dieu par des fausses doctrines, c'est qu'ils sont déjà séduits. Et il y en a eu parmi nous. Bon, il ne reste pas, c'est sûr. Mais j'allais dire presque heureusement. Moi, je vous assure, il y a une quinzaine de personnes avec qui j'ai dû dans l'Église, des membres. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas la parole. Oui, mais monsieur de Dieu, c'est bien. Ah, mais ce n'est pas parce que c'est bien que c'est biblique. Alors, si les gens ne le remarquent pas, c'est clair qu'ils sont déjà séduits. Si pour vous, toutes les églises sont pareilles, c'est pas grave, etc. Écoutez, c'est que déjà, vous êtes séduits. Les gens sont prêts aujourd'hui à accepter les miracles mensongers. Les gens, ils veulent des miracles. Regardez bien les textes. Alors, vous avez vu ce verset dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Quand même, il faut quand même le lire ce verset. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu, alors vous avez lu ce verset comme moi, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tiens, qu'est-ce que c'est cette affaire ? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que Dieu dirait des mensonges ? Est-ce que Dieu dit des mensonges ? Bien sûr que ce n'est pas possible. Mais il laisse faire. Vous ne voulez pas de la vérité, vous préférez le mensonge. C'est comme dans les Romains quand il est dit « Dieu les a livrés à leur impureté comme étant homme avec homme, des choses infâmes, etc. etc. » Dieu les laisse faire. Dieu les a livrés à l'impureté. Ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que les hommes soient impurs. Mais si vous voulez prendre une voiture et prendre un virage à 160 à la place de 60, eh bien vous vous livrez à la force de l'attraction et vous allez voir que vous allez avoir un accident. Dieu peut dire « je les ai livrés à un accident ». C'est eux-mêmes qui se sont livrés à l'accident. Alors, les hommes rejettent tellement le conseil de Dieu, ils sont incapables de percevoir la vérité. Moi, je vous assure, il y a un jeune pasteur de chez nous qui a dit il y a 3 ou 4 ans dans un centre de vacances chrétien, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas se convertir. Il n'y a pas besoin de se convertir pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, ça a été prêché chez nous. Mais ce pasteur, il n'est pas converti. C'est sûr qu'il n'est pas converti. Il a prêché ça à nos enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je veux terminer, parce que c'est archi sérieux. Regardez Pharaon, prenons un exemple. Pharaon, est-ce qu'il aurait pu avoir, lui, l'opportunité de se convertir ? Mais bien sûr, il aurait pu se repentir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait affaire quand même à un drôle de pasteur. Il aurait pu avoir la possibilité de se repentir. Mais il a refusé Dieu, il a endurci son cœur. Et après, de toute façon, Dieu l'a utilisé sans qu'il s'en rende compte pour que la volonté de Dieu soit faite. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que Dieu a utilisé Pharaon ? Oui, alors qu'il aurait pu être sauvé lui aussi. Donc, si je n'accepte pas la vérité, j'accepte des mensonges et je vais accepter d'être séduit. Il y a des textes dans l'Ancien Testament qui font réfléchir par rapport à ces faux prophètes. On va en lire un quand même. Vous êtes d'accord ? Vous me donnez 5 minutes de plus ? Le conseil d'administration, corrigera mon salaire en conséquence. 1 Roi chapitre 22. Vous voyez, est-ce que ça c'est biblique, hein ? 1 Roi chapitre 22. C'est bien ce que je viens de dire ? Ah, il faut le dire. 1 Roi, chapitre 22. Même si je fais un quart d'heure de plus, je n'ai pas droit à une petite augmentation. Non ? Eh bien, vous êtes bien dur. Heureusement que le trésorier est plus gentil. 1 Roi, chapitre 22. Vous y êtes ? Ce sont des textes, je ne sais pas si ce sont vos textes préférés. Alors, 1 Roi 22, verset 20. Alors, regardez, c'est des textes, ça fait, il n'y a pas que celui-là en plus. Hein. 1 Roi, chapitre 22, verset 20. L'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vous pouvez voir plusieurs textes comme ça. Quand Dieu dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Si vous n'acceptez pas la saine doctrine, vous acceptez des mensonges. Si, entre guillemets, religieux soit-il. Oui, je parlais de ceux qui ont des révélations, etc. Si vous commencez à accepter ça, vous accepterez d'autres formes de séduction et vous abandonnerez la foi. C'est comme ça que ça se passera. Moi, l'autre jour, on m'a posé une question, mais est-ce qu'une femme peut être pasteur ? Alors, on accepte des faux enseignements, je n'ai même pas la peine de répondre. On accepte de faux enseignements et on finit. Bien sûr, ça peut arriver. Imaginez, pendant la guerre, moi, j'ai appris qu'il y avait des églises où il n'y avait pas d'hommes. Et on m'a dit qu'il y avait une femme qui faisait chanter et une autre qui lisait un psaume et priait. Mais est-ce que c'était bien là ? Ben oui. Mais quand il y a des hommes, je pense que le Nouveau Testament nous enseigne que ce sont les hommes qui doivent diriger l'Église. Ce n'est pas du mépris pour les femmes. Est-ce que ça veut dire pour ça que les femmes sont moins spirituelles ? Bien sûr que non. La spiritualité ne se mesure pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est spirituel. Il faut quand même le comprendre, ça. Quelqu'un, il est spirituel quand il obéit à Dieu, qu'il ait une responsabilité voyante ou pas. Voilà à quoi se reconnaît la spiritualité. Mais s'il n'y a pas cette repentance nécessaire lorsque cela est demandé, eh bien, on va connaître la grande tribulation. Regardez à l'église de Thyatira. Je suis un peu long. Ça ne vous gêne pas que je sois un peu long ? Bon, ce n'est pas anti-biblique. Non. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, il y a une église qui commence à accepter le ministère des femmes. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Alors, je ne dis pas que... Par contre, je pense que Dieu, dans sa souveraineté, dans certains endroits, peut utiliser une femme lorsque tous les hommes ont refusé d'obéir. Ça, je le crois, par contre. Ça, je le crois vraiment, que Dieu, comme Déborah, qu'il a utilisé, je suis sûr que si ça peut arriver dans des... Attention, parce que ça peut arriver qu'un jour, tous les hommes abandonnent la foi, dans certains endroits, et que Dieu, pour le salut des enfants et des autres, utilise des sœurs remplies du Saint-Esprit pour bénir. Mais tant qu'il y a des hommes, Dieu utilisera des hommes, croyez-moi. Alors, c'est un sujet sérieux, épineux, mais ne vous inquiétez pas, mes sœurs, vous avez assez de travail à la maison, c'est bien qu'à l'église, on vous serve la Sainte Cène. Oui, mais je suis sûr qu'on ferait distribuer la Sainte Cène aux sœurs. Il y en a qui diraient, et voilà, maintenant c'est à nous qu'il faut distribuer encore ici aussi. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Alors, on va lire verset 20. Oui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et envoyer une grande tribulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si on ne se repent pas de ses péchés, eh bien nous traverserons la grande tribulation. Que si nous ne nous repentons pas, eh bien nous ne serons pas enlevés et nous connaîtrons la grande tribulation. Mais il y a des gens, à quoi ça sert de se repentir ? Le Seigneur nous aime, mais je vous assure, mes frères et sœurs, tout ce que j'entends de la part de certains chrétiens, certains parfois viennent ici, mais il y a un aveuglement, Dieu les a livrés au mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Si vous aimez la parole de Dieu, si vous aimez la vérité, lisez la Bible. Ne lisez pas tous ces bouquins qui parlent de tout et de n'importe quoi, et ça regorge. Alors bien sûr, si un bouquin parle du Saint-Esprit toutes les pages, mais ça vient de Dieu. Mais non ! Ce n'est pas parce qu'un pasteur parle du Saint-Esprit toutes les trois minutes que sa prédication est inspirée. La prédication est inspirée si tout ce que dit le pasteur est vraiment biblique, mes frères et sœurs. C'est important. Et la colère de Dieu, elle va venir. Vous le croyez que la colère de Dieu va venir ? Ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est rien à côté de cette colère qui va venir sur la terre. Et dans Jérémie, je vous lis un verset, ne le cherchez pas, Jérémie 23, verset 20. « La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé des prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu entendre mes paroles et les faire entendre à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. » Quand on écoute la parole de Dieu, on sait. Moi, je vous le dis, mais heureusement que je suis capable de le faire. Ça fait 31 ans que je prêche, j'ai lu la Bible des dizaines de fois. Mais moi, je peux vous dire, quand j'entends une prédication, je peux vous dire s'il y a 1%, 2%, 3%, 5% qui n'est pas biblique. Heureusement, parce que si je ne pouvais pas le faire, ça serait quand même grave. Mais mes frères, c'est comme ça qu'on y arrive. On lit la Bible, et quand vous entendez une prédication, vous savez si ce qui est dit est biblique ou pas biblique. La Bible dit que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. Vous avez envie de voir des miracles ? Moi aussi. Mais les miracles, ils passeront pas avant la vérité. Moi, vous avez envie de voir des prodiges ? Moi aussi. Mais je peux vous dire que les miracles et les prodiges ne passeront pas avant l'amour de la vérité, mes frères et sœurs. Non, on n'acceptera pas les fausses doctrines. Nous voulons que le chandelier brille, nous voulons que le Seigneur Jésus soit dans l'assemblée. Moi, hier, j'étais triste et heureux en même temps, heureux de préparer cette prédication. J'étais triste. Vous savez, quand on imagine le Seigneur dehors, vous imaginez le Seigneur dehors. Imaginez, vraiment, imaginez-le physiquement dehors de l'église. Ça fait pitié quand même, non ? Non ? Vous voulez qu'il soit où le Seigneur ? Qu'il soit là, qu'il se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous verrons. Ne nous accaparons pas de qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver des âmes, quelle tête d'affiche il faut inviter à tel rassemblement pour avoir beaucoup de monde. Mais on n'a pas besoin de tête d'affiche. On a besoin, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu. On a besoin, si on a besoin d'entendre parler de la repentance, eh bien que Dieu nous parle sur la repentance. Si vous êtes perdus, repentez-vous. Repentez-vous et choisissez une église. Moi, je vous le dis à vous qui m'écoutez et à vous qui êtes ici ce matin. Choisissez des églises où on prêchera la saine doctrine. Qu'il soit dit, qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y en ait 500, c'est pas grave. Choisissez une église où on honore la saine doctrine. Pas grave le nombre. C'est tant mieux s'il y a du monde. Mais mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est qu'on honore la saine doctrine. Ceux qui auront pris plaisir à l'injustice seront condamnés. Mes frères et sœurs, toutes ces épîtres, elles ont été écrites dans un seul but, de corriger les erreurs, de faire un choix. Oui, moi, je veux faire partie de cette église qui honorera la saine doctrine. C'est votre désir, mes frères et sœurs, vraiment d'honorer la saine doctrine. C'est comme ça que le Seigneur sera au milieu de nous. Ne vous posez pas la question, est-ce que Jésus sera dans les églises pentecôtistes ? Est-ce que Jésus sera dans l'église épiscopalienne ? Écoutez-moi, le Seigneur Jésus, il régnera dans une église où on respecte la saine doctrine. Alléluia. Et lisons la Bible, lisons-la sérieusement, et nous verrons le Seigneur agir au milieu de nous.